le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Bonjour à tous, nous étions hier avec l'historien Vincent Lemire que nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Jérusalem, la ville-monde comme il l'appelle lui-même. Nous avons parlé hier dans la première partie de cette émission de la fondation de la ville, de sa conquête par les Romains et de la destruction du temple, puis de la conquête musulmane. Et nous arrivons aujourd'hui à la Jérusalem des croisés. Les croisés, donc les Européens, décident de libérer, entre guillemets, Jérusalem et de protéger le pèlerin. Vincent Lemire, est-ce que c'est un simple prétexte ?
Alors ça dépend des croisades, c'est ça qu'il faut. Il y a plusieurs croisades, et donc il y a des croisades prétextes, hein, où en fait on parle de la libération du tombeau du Christ pour aller en fait reprendre Constantinople ou faire des razzias en pleine Méditerranée. Mais il y a aussi des croisades qui sont véritablement des guerres saintes et qui mobilisent des dizaines de milliers de nobles et de non-nobles européens, occidentaux, chrétiens, véritablement enfiévrés par cette angoisse du fait que le tombeau du Christ ne serait plus accessible, ce qui n'est pas vrai. Hein. Ça aussi, c'est une reconstruction, c'est-à-dire qu'on, comme dans des guerres parfois contemporaines, hein, on construit un motif. On construit un motif idéologiquement. Urbain II à Clermont lance son fameux appel à la croisade en 1095. Ce motif est faux, mais les gens qui se mobilisent pour la croisade sont sincèrement convaincus. Ce qui est extraordinaire avec la conquête croisée de Jérusalem, d'abord, c'est que ça ne dure pas très longtemps. On est à nouveau sur 80-90 ans. Hein. Les croisés prennent Jérusalem en 1099 et Saladin la reprend en 1187, hein, donc voilà, 88 ans. Premièrement, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette conquête s'accompagne de massacres absolument effroyables, dizaines de milliers de morts qui sont passés par le fil de l'épée, et puis surtout que ces massacres sont racontés de façon encore plus horrifique par ceux qui les commettent, encore plus que par ceux qui les ont subis. C'est assez paradoxal, les récits les plus horrifiques des massacres croisés sont ceux des chroniqueurs croisés eux-mêmes. Et alors, on a parfois des échos contemporains, on se dit, mais c'est parce que c'est un massacre expiatoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de tuer les gens qui protègent les tours ou les remparts, ou ci ou ça, donc ce n'est pas seulement opérationnel ou fonctionnel pour prendre une ville, il faut massacrer, il faut qu'il y ait des fleuves de sang pour que la souillure des infidèles soit laver dans leur propre sang. Quoi. C'est tout un discours expiatoire eschatologique, en fait.
On ne peut pas s'empêcher de penser au GoPro du Hamas. C'est frappant.
C'est ce qui m'est venu très immédiatement dans les heures qui ont suivi. Ça a été après le 7 octobre, vous vous souvenez de cette surprise. Hein, où tu disais, comment se fait-il qu'ils ont si bien filmé de façon si systématique et qu'ils ont laissé les images et même qu'ils les ont diffusées. Parfois, un massacre, il a cette dimension expiatoire, eschatologique, et donc il faut le magnifier, parfois même l'exagérer, par ceux-là même qui l'ont commis. Ça bouscule un petit peu nos représentations contemporaines occidentales, mais ça existe, et à Jérusalem en particulier.
Après les croisés, il y a une reconquête musulmane avec Saladin, le fameux Saladin, qui reprend donc la ville aux croisés. Que devient Jérusalem à ce moment-là ?
Alors c'est la deuxième phase effectivement d'islamisation de Jérusalem, c'est la phase finalement la plus fondamentale. Saladin, c'est une figure jusqu'à aujourd'hui hein, qui reste très 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 importante, presque autant que Salomon, on peut dire. Enfin, il fait vraiment partie des très grands conquérants, aussi parce qu'il a choisi de prendre la ville, non pas par un massacre, mais en négociant une reddition. Et c'est très très important dans la mythologie de Saladin. C'est une conquête islamique, mais qui se fait presque paisiblement. Et puis Saladin va pour le coup, avoir lui et ses fils et ses descendants immédiats, avoir le projet de réislamiser, de réurbaniser, de repeupler aussi Jérusalem, parce que la Jérusalem croisée, les croisés avaient massacré non seulement tous les musulmans, non seulement tous les juifs, bien sûr, mais aussi la plupart des chrétiens non catholiques, hein, les chrétiens orientaux, c'est-à-dire l'essentiel de ceux qui étaient sur place. Il ne restait pas grand monde. Et donc il faut repeupler cette ville, il faut la réislamiser, il faut la réurbaniser. Elle est complètement, en fait, elle flotte dans ses murailles. Et par exemple, Saladin va accorder un quartier au sud de la ville de Jérusalem, qu'on va appeler le quartier des Maghrébins, pour les pèlerins musulmans originaires du Maghreb. Il faut les loger particulièrement, les soigner particulièrement, les nourrir particulièrement, parce qu'ils viennent de très loin. Le Maghreb, ce sont les confins occidentaux de l'islam. Et ce quartier, c'est juste pour illustrer, il va y avoir des dizaines et des dizaines de fondations pieuses islamiques qui vont être fondées, alors les unes pour accueillir les Indiens, les Pakistanais, les Yéménites, voilà, toutes les nations, on va dire, de l'islam bénéficient comme ça de ces lieux d'accueil. Et ce qui est extraordinaire, c'est que certains de ces lieux d'accueil sont toujours actifs aujourd'hui. Il y a toujours des soupes populaires, il y a toujours des choses comme ça. Le quartier des Maghrébins a fonctionné tout à fait régulièrement jusqu'en 1967, jusqu'au moment de la guerre des Six Jours.
Il a été rasé après 67.
Il a été rasé en une nuit, dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, par l'armée israélienne, pour ouvrir ce que les auditeurs connaissent bien sans doute, hein, c'est-à-dire ce fameux parvis du mur occidental, mur des lamentations, un parvis très minéral qui a l'air éternel, comme beaucoup de choses à Jérusalem, et qui en fait ne date que de 55 ans. Mais donc effectivement, la période Ayyoubide, elle est importante. Ensuite, nous avons la période Mamelouk, qui a dessiné une grande partie de l'architecture de la Jérusalem actuelle, hein, les splendides bâtiments polychromes, hein, que l'on connaît, pierre blanche, rose, noire. Ça, c'est l'architecture Mamelouk. Jérusalem est la ville Mamelouk la mieux conservée au monde. Il y a beaucoup plus d'architecture mamelouk à Jérusalem qu'au Caire, ce qui est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Au Caire, ça a été beaucoup plus détruit. Ceux qui travaillent sur l'architecture mamelouk, c'est à Jérusalem qu'ils peuvent le voir. Et puis ensuite, on a la période ottomane qui suit de façon tout à fait fluide, en fait, la période mamelouk. Encore beaucoup de constructions. C'est une période moins connue, mais à laquelle j'ai consacré un chapitre entier de cette histoire de Jérusalem en bande dessinée, que j'ai intitulé « La paix des Ottomans », parce que finalement, ça dure quand même 4 siècles. De 1516 à 1917, c'est long, puis c'est très proche de nous. Alors c'est un moment où il ne se passe pas grand-chose, où personne ne massacre personne, alors ça intéresse moins les historiens, mais où on peut raconter aussi une autre histoire de Jérusalem, où on y voit des communautés qui coexistent, bon an, mal an, où on voit des instances de régulation, où on voit un tribunal islamique auquel se rendent non seulement évidemment tous les musulmans, mais aussi les chrétiens, mais aussi les juifs, s'ils ont des différends commerciaux ou familiaux. Voilà, on voit une ville qui est effectivement dans un contexte impérial. Le contexte ottoman, c'est un contexte impérial. On a un sultan calife à Istanbul, Constantinople, alors, les Européens ont tendance à dire c'est le moment où Jérusalem sommeille, où elle est oubliée, où elle est décrépie, etc. On sait surtout que voilà, elle est peut-être moins l'objet de fantasmes. Les Européens s'y intéressent moins à l'époque moderne. Ils sont tout entiers tournés vers la lutte contre le protestantisme. Hein. C'est ça leur combat. Et c'est seulement au XIXe siècle, en fait, que les Européens, les Occidentaux, pour tout un tas de raisons, vont redécouvrir Jérusalem.
Alors juste une petite précision, sous les croisés qui apparemment avaient détruit énormément de choses, Que sont devenus les lieux saints juifs et musulmans? Est-ce qu'on sait déjà?
Oui, oui, il y a une histoire assez peu connue, en fait, mais qui est extraordinaire, parce que c'est vrai que les croisés détruisent. Alors, ils massacrent surtout, hein, ils détruisent assez peu, finalement, la maçonnerie, c'est pas trop leur sujet. Et notamment, le dôme du rocher reste en place. Et alors, il va s'appeler le Templum Domini. Donc, on va le christianiser, et puis on va évidemment enlever le croissant qui est au-dessus, on va mettre une croix. Bon, ça mange pas de pain, j'allais dire. Mais à l'intérieur de ce dôme du rocher, encore aujourd'hui, les visiteurs peuvent voir une longue inscription koufique, caractère koufique.
Koufique, c'est une écriture arabe.
Voilà, c'est un type d'écriture arabe, mais surtout, c'est une inscription proto-coranique. Pourquoi je dis proto-coranique ? Parce qu'on sait que c'est une inscription qui est mise en place dès le moment de la construction du dôme du rocher. Donc en 692, cette inscription est là. La fixation du texte coranique, la fixation définitive, c'est plutôt les années 720. Hein. Et c'est une inscription qui s'adresse en arabe, en particulier aux chrétiens, et qui dit « ne dites pas trois, dites un ». Donc c'est une inscription qui vise la Trinité chrétienne. Il n'y a qu'un seul Dieu, etc. Jésus était un grand prophète, mais ce n'était qu'un prophète. Il n'était pas le Fils de Dieu. Enfin bon, c'est une réaffirmation en fait du dogme monothéiste qui vise la ville chrétienne qui vient d'être prise. Eh bien, cette inscription n'a pas été martelée. Alors, il y avait énormément de chrétiens lecteurs arabophones à l'époque croisée. Enfin, on en a des attestations. Cette inscription n'a pas été martelée. Alors, elle a peut-être été recouverte. Il est bien possible qu'on l'ait drapée. Mais ensuite, en 1187, quand Saladin reprend la ville, il récupère le dôme du rocher intact. Il a juste à enlever la croix qui est au-dessus de la voûte et à y remettre un croissant et tout va bien. Donc, vous voyez, c'est assez symptomatique aussi, sans doute. La mosquée Al-Aqsa devient une basilique, ça c'est pas très compliqué. Hein. Mais c'est assez symptomatique de ces conquérants qui peuvent massacrer vraiment abondamment, mais ont un respect quand même des lieux, précisément. Des lieux saints, en tant qu'ils sont chargés d'une histoire, peut-être aussi d'une mémoire, peut-être aussi d'un certain nombre de superstitions. Sur ces lieux, il y a des empreintes de pied. Alors, des fois, c'est l'empreinte de pied de Jésus. Parfois, on parle de l'empreinte de pied de Salomon, l'empreinte de pied de Mahomet. Enfin, c'est compliqué quand même de détruire tout ça.
Donc, le fait de transformer une église en mosquée ou une mosquée en église n'est pas nécessairement un geste agressif. Ça peut être aussi une marque de respect pour le lieu.
Ah ben, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans cette bande dessinée. Hein, c'est qu'il y a beaucoup de... Par exemple, la chapelle de l'Ascension, on peut prendre un exemple un peu plus mineur que le Dôme du Rocher. La chapelle de l'Ascension, qu'est-ce que c'est ? C'est une chapelle chrétienne attestée au sommet du Mont des Oliviers, attestée à peu près à l'époque croisée, qui commémore l'ascension de Jésus au ciel. Bon, donc il y a une empreinte de pied, comme souvent dans ces endroits-là, parce que Jésus a pris appui sur ce rocher pour monter au ciel. Et puis avec l'islamisation de la ville, Jésus, c'est un prophète de l'islam. C'est même un des tout premiers, un des plus importants après Mahomet. Et donc, cette église devient une mosquée, mais elle garde exactement la même fonction. C'est une mosquée qui commémore l'ascension au ciel du prophète Issa, Jésus. Donc, pour répondre directement à votre question, la transformation de cette église en mosquée est logique d'une certaine manière. La souveraineté change. Les musulmans veulent rendre hommage aussi au prophète Issa, Jésus. Mais voilà, ils transforment l'église en mosquée. Et d'ailleurs, cette mosquée qui existe toujours aujourd'hui, les chrétiens la visitent. Les gérants de la mosquée, d'ailleurs, intelligemment, ont mis un panneau au-dessus avec écrit « Chapelle de l'Ascension » ou « Ascension Church » en se disant qu'ils attireront un peu plus de pèlerins, ce qui est le cas. Et puis tous les jeudis de l'Ascension, les autorités musulmanes en fait se retirent de la mosquée et toutes les communautés chrétiennes viennent prier toute la journée et toute la nuit dans la mosquée de l'Ascension pour commémorer, selon le calendrier chrétien, l'Ascension de Jésus, pour le coup, le Jésus chrétien. Donc je pourrais multiplier les exemples. Donc c'est vrai qu'il y a dans cette histoire de Jérusalem des ruptures, des massacres, des cassures, hein, les cassures du temps, mais il y a aussi l'esprit des lieux et la continuité des lieux. Et celle-là, elle a été, on va dire, très largement respectée, même si toujours reconfigurée par les conquérants.
Yeah.
arrivé au Jérusalem actuel, au Jérusalem de tous les conflits et de tous les affrontements, de tous les combats, on remarque qu'il y a deux narratifs contradictoires, hostiles. Chacun raconte une histoire avec grand H, et chacun instrumentalise, enfin, le mot est peut-être fort, mais chacun utilise cette histoire pour des objectifs politiques. Israël proclame Jérusalem comme sa capitale, et les Palestiniens proclament aussi Jérusalem comme leur capitale. Y a-t-il une possibilité de réconcilier ces deux narratifs, ou bien est-ce que nous sommes condamnés à assister en permanence à ce conflit?
La grande bascule dont vous parlez, elle se situe au début du XXe siècle, donc elle est assez récente en fait. Et c'est une bascule qui n'intéresse pas seulement que l'histoire de Jérusalem, qui intéresse l'histoire du monde. C'est le passage de l'âge des empires à l'âge des nations. Voilà, c'en est fini des empires, en tout cas provisoirement. Un empire, c'est une entité politique qui tire sa légitimité du fait de régner sur plusieurs peuples, plusieurs langues et plusieurs communautés religieuses. Sinon, c'est plus un empire, c'est un royaume. Donc, on peut comprendre que dans l'âge des empires, qui a duré des siècles et des siècles, il y avait des empires islamiques, il y avait des empires chrétiens, dans l'âge des empires, la position de Jérusalem était assez pratique, en fait, et assez utile. Jérusalem, c'était un joyau sur une couronne impériale. C'était le lieu, précisément, où une autorité impériale pouvait prouver qu'elle savait faire coexister plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs religions. À la fin du XIXe siècle, ces empires sont fragilisés. L'empire comme système idéologique est fragilisé, même y compris en Europe centrale et au Proche-Orient et partout en fait. Et l'empire perse, enfin tous en fait. Et on entre dans l'âge des nations et des états-nations. Chaque nation doit avoir son état. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et effectivement, dans cette région, deux nations, deux peuples, deux communautés nationales revendiquent Jérusalem comme leur capitale propre. Alors ça ne se fait pas immédiatement, ça passe effectivement par les Britanniques. Hein. En 1917, l'armée britannique s'empare de Jérusalem contre les Ottomans, c'est la fin de l'Empire Ottoman. Et les Britanniques vont faire de Jérusalem la capitale d'une nouvelle entité administrative qu'on appelle la Palestine. Palestine mandataire, parce que la communauté internationale confie aux Britanniques un mandat. Mandat qui consiste à permettre l'émancipation des peuples et l'autodétermination des peuples. Mais en Palestine, il y a deux nationalismes irréconciliables immédiatement qui demandent pour chacun une autonomie politique et un État. Et Jérusalem, effectivement, capitale de cet État. Donc, on est dans ce moment-là de l'histoire de Jérusalem. Jérusalem devient un champ de bataille. Jérusalem devient effectivement aussi le champ de bataille de plusieurs narratifs, vous l'avez dit, avec des rétro-projections assez grossières, souvent, et assez délirantes. Quand j'ai dit que Yasser Arafat avait longtemps nié l'existence du premier temple et même du second temple de Jérusalem, c'est absolument ridicule et c'est totalement contre-productif. Et puis du côté juif israélien, du côté du narratif sioniste, il y a une instrumentalisation, le terme n'est pas du tout exagéré, il y a une instrumentalisation de l'archéologie juive dès l'origine et qui prend des proportions aujourd'hui absolument, absolument inconcevables. Les gens qui nous écoutent doivent comprendre quelque chose de très simple. Un texte, vous pouvez le lire de plein de façons différentes. Vous n'allez pas détruire ce texte. Vous pouvez même le mésinterpréter, vous pouvez le faire mentir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais après vous allez refermer le livre, quelqu'un d'autre peut rouvrir le même livre et l'interpréter correctement ou différemment. L'archéologie, ça n'a rien à voir. On ne fouille qu'une seule fois un terrain et on détruit le document au moment même où on le découvre et où on l'analyse. Et donc il y a une responsabilité éthique fondamentale dans la pratique archéologique. Et le problème devient encore plus grave lorsque l'archéologie juive israélienne cherche les couches les plus profondes des terrains archéologiques. C'est toujours les couches bibliques hein, qui sont recherchées. Pour retrouver une couche profonde, il n'y a pas d'autre moyen que de détruire les couches du dessus. Hein, il faut les retirer, il faut les enlever. Alors, il faut les documenter correctement, il faut les photographier, il faut tout ça. Mais c'est là que la demande politique, idéologique, sociale, publique envers l'archéologie israélienne crée une distorsion totale avec des fouilles qui sont des fouilles sur les couches de surface ou les couches intermédiaires donc la couche ottomane, la couche mamelouque, la couche ayoubide, la couche croisée, la couche byzantine, hein, on peut refaire toute l'histoire, celles-là sont en fait évacuées très rapidement, trop mal documentées, trop mal mises en valeur, voire pas du tout mises en valeur ensuite pour les visites, et puis on arrive à la couche biblique, hérodienne, peu importe, asmonéenne, etc. On trouve des belles mosaïques, et on montre au public une histoire qui existe, hein, qui est une histoire biblique, qui est une histoire romaine, qui est une histoire peu importe, mais on ne montre pas les couches du dessus. Donc vous voyez, cette question de l'archéologie, elle est fondamentale parce qu'elle est irréversible d'une certaine manière.
Est-ce que j'ai bien compris, vous êtes en train de dire clairement qu'on efface les traces des autres strates, on ne les préserve pas ?
Alors, on ne les efface jamais totalement. Si vous allez dans les entrepôts de l'autorité archéologique israélienne, et moi je peux y aller, mais vous ne pouvez pas par exemple. Les gens qui nous écoutent ne peuvent pas non plus. Si vous allez dans les entrepôts, les objets, les artefacts, les amphores, les pièces byzantines, mamelouques et tout ça qu'on trouve dans les couches supérieures, elles y sont, je vous rassure. Les archéologues israéliens sont d'excellents archéologues et ils conservent tout ça dans des petits sachets plastiques. Mais ce n'est pas valorisé, ce n'est pas montré, ce n'est pas mis en récit dans des visites touristiques, si vous voulez. Donc c'est un effacement, pour être précis, c'est un effacement narratif. Ce n'est pas un effacement matériel complet. Si l'on voulait reprendre tout ça, on pourrait revenir dans ces entrepôts et recréer des visites un petit peu plus exhaustives, un petit peu plus honnêtes sur le plan de la synthétique historique. Mais c'est vrai qu'on a un vrai problème aujourd'hui et une pression qui s'accentue de plus en plus à mesure que les récits se polarisent, à mesure que les positionnements politiques se radicalisent, en particulier du côté israélien, il faut le dire.
Alors, dans ce conflit israélo-palestinien, l'histoire est très souvent convoquée, trop souvent convoquée, pour justifier parfois la colonisation, des massacres, des attaques, du terrorisme, pour justifier tout et n'importe quoi. Dans quelle mesure l'historien que vous êtes est choqué par ces pratiques et surtout, est-ce qu'on peut empêcher ces pratiques ?
Alors, moi, je ne suis ni choqué ni surpris. L'histoire a toujours été un réservoir d'armes idéologiques. Hein. Il ne faut pas être naïf de ce point de vue-là. Et moi, quand j'écris, je sais très bien qu'une partie de mes écrits, certaines des pages que j'écris peuvent être utilisées par les uns et puis la page suivante par les autres. Tant que mes livres peuvent être comme ça, déchirés en plusieurs morceaux et utilisés par les uns et les autres, ça me va, j'allais dire. C'est le contexte politique, idéologique, géopolitique qui explique ça. Et quand, si on arrive à un processus d'apaisement puis à un processus de paix, tout ça va se résorber assez naturellement. Donc ça ne me choque pas, ça ne me surprend pas. Je pense qu'il y a de la place pour autre chose. En particulier, je me rends compte à chaque fois que j'interviens à Jérusalem, que les habitants de Jérusalem, je parle des citadins qui vivent là depuis assez longtemps, et pour le coup qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, hein, il y a des communautés qui sont anciennes, de tous les côtés, des trois côtés à Jérusalem. Il y a une citadinité, moi c'est un concept que j'utilise souvent, c'est-à-dire une forme de, oui, d'identité locale, hein, finalement on pourrait dire de campanilisme. Alors ce campanile, soit c'est un clocher, soit c'est un minaret, soit c'est une synagogue, mais une identité, une identité de Jérusalem, des gens de Jérusalem, des familles de Jérusalem qui ont en héritage des grandes figures. J'ai parlé de Salomon, j'ai parlé de Saladin, et qui sont plutôt des figures transversales en fait à ces différentes religions, qui ont des lieux communs, des lieux où ils se rendent, des lieux qu'ils aiment, des paysages, des reliefs, etc. Et puis il y a des récits exogènes. Bon, il faut bien les appeler comme ça. Exogènes, ça veut dire qu'ils sont forgés de l'extérieur. Alors le récit sioniste est un récit en partie exogène. Hein. Herzl n'aimait pas Jérusalem. Herzl était né en Europe centrale et d'ailleurs, il n'était pas sûr d'ailleurs que Jérusalem devait être le cœur de tout ça. Mais le récit sioniste est un récit exogène. Le récit islamiste, en fait, qui va faire de Jérusalem soi-disant une ville possible pour l'orthodoxie musulmane, c'est un récit totalement rapporté de l'extérieur. Jérusalem ne peut pas être une ville orthodoxe sur le plan islamique, ni orthodoxe d'ailleurs sur le plan chrétien, ni sur le plan juif, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est la ville de tous les frottements, de toutes les porosités, de toutes les impuretés. On n'est pas à la Mecque, on n'est pas à Lourdes, si vous voulez. Quand vous êtes à Lourdes, oui, vous pouvez forger un récit totalement catholique et qui sera a priori, qui va rester propre, voilà. Quand vous êtes à la Mecque, c'est la même chose, vous n'êtes pas dérangé, j'allais dire. À Jérusalem, vous êtes dérangé tout le temps. Parce qu'en fait, sur un même lieu, vont en permanence venir se poser des récits différents, des toponymies différentes.
J'ai envie de vous demander, il y a Lourdes pour les chrétiens, il y a Rome, il y a ce que vous voulez, il y a la Mecque et Médine pour les musulmans. Qu'y a-t-il pour les juifs?
Et vous avez raison. Et vous avez raison. Et c'est d'ailleurs le discours, et c'est un argument fort du discours israélien aujourd'hui, c'est de dire, mais nous n'avons que ça. Oui, mais il se trouve que le judaïsme a été la matrice de deux autres révélations monothéistes que sont le christianisme et l'islam. On n'y peut rien. Et c'est vrai que, donc, d'une certaine manière, les traditions juives subissent aussi des empilements qui sont au-dessus d'elles, mais elles sont là.
Est-ce que c'est la clé pour une lueur d'optimisme pour l'avenir ?
Oui, parce que Jérusalem, s'il y a une seule conclusion qu'on peut tirer de l'histoire de cette ville, et si on referme ma bande dessinée, la seule morale de l'histoire, c'est on ne peut pas s'approprier exclusivement cette ville sainte. C'est ce que l'histoire de Jérusalem nous enseigne. Les derniers à avoir essayé, ce sont les croisés, et ça s'est très très mal terminé. Cette ville est une accumulation de traditions, de langues, de récits, et donc elle ne peut fonctionner que dans le partage. Alors, il y a des modalités différentes. J'ai bien dit le partage, pas la partition, pas la division. Ce qui doit changer, c'est le paradigme, c'est l'horizon politique. Et c'est l'horizon idéologique qui fait aujourd'hui de Jérusalem un champ de bataille. Mais Jérusalem pourrait devenir, au contraire, le support d'une nouvelle façon de penser ce conflit et les solutions à ce conflit.
Vincent Lemire, merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Vanessa Rovinsky, merci de l'avoir suivie et à bientôt sur RFI.